Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et donc, merci. Ouais. Chers auditeurs, merci de nous écouter. On est de retour en onde. Comme je le disais, on va un petit peu élargir ce sujet aussi au conflit qui est actuellement en Ukraine et qui a un impact sur tout le contexte qu'on a actuellement et sur le décès de Navalny. D'ailleurs, je ne comptais pas vraiment en parler dans ma chronique, mais c'est une information qui est tombée pendant le début de l'émission. On vient d'apprendre que le pilote russe Maxim Kouzminov, qui était un pilote russe, mais qui avait fait état de défection, donc c'est-à-dire qu'il avait quitté l'armée russe lorsque la Russie a déclaré guerre à l'Ukraine pour dénoncer justement les offensives lancées par la Russie. Et qui avait rejoint le soutien à l'Ukraine, eh bien, ce pilote russe, il vient d'être assassiné par le a priori par la Russie. Je vous dis, j'ai pas toutes les informations, mais il vient d'être assassiné dans un parking souterrain en Espagne. Donc là, on est même plus sur le territoire russo-ukrainien. Donc on voit que les implications liées à ce conflit-là, comme je le disais, s'intensifient. Et deuxièmement, il y a la ville de d'Advika dont Marc-Antoine va nous parler, qui est aux prises de l'armée russe et un nombre d'offensives d'ailleurs de l'armée russe qui s'est augmenté, qui s'est accru. Et donc au-delà de cette ville, ça pourrait être d'autres villes qui tombe en fait sous le joug de l'armée russe. Donc c'est de tout ce contexte-là qu'on va parler aussi aujourd'hui qui entoure le décès d'Alexeï Navalny. Je vais te laisser traiter de ce sujet-là, okay. Marc-Antoine.
Merci Enzo. C'est ça, Advika, qui était qui a été une ville assiégée par l'armée russe. L'armée ukrainienne s'est retirée dernièrement d'Advika à cause notamment qu'ils étaient encerclés et qu'il y avait un risque trop grand de perte. Ça joue aussi au niveau du manque d'armement que l'Ukraine demande de l'aide occidentale, entre autres. Parce qu'ils disaient, nous, on est cernés, comme on peut pas... On n'a pas l'armement à force égale que les Russes ont.
Parce qu'on le veuille ou non, à la fin de la journée, bien qu'on va se le dire, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est une déboire militaire incommensurable. Donc vraiment, ça a été mal fait. Puis clairement que l'armée russe n'est plus ce qu'elle était. Et ça l'a paru, on a de la misère à conquérir l'Ukraine, qui n'est pas supposée être nécessairement une grande puissance militaire, et qui ne l'est pas en fait. Là.
Ouais, c'est un tout petit pays
de l'Est. Hein. C'est ça, exact. Puis à la fin de la journée, ils n'ont pas nécessairement les capacités militaires pour se défendre. C'est dû à simplement, mettons, des pourcentages de PIB. Ça fait aucun sens, les différents...
Justement, sur ça, pardon de l'interruption, le tiers du budget de la Russie actuellement sert à financer la guerre en Ukraine.
Je me demande si c'est pas la moitié du PIB ukrainien à la fin de la journée. Je sais pas, je connais pas les chiffres, mais c'est un peu ça. Puis, à la fin de la journée, il manque d'hommes en Ukraine. Et ils pourront jamais, en quantité d'hommes, rivaliser avec la Russie, surtout dans un régime autoritaire comme la Russie. C'est la conscription qu'on avait ça?
Oui,
la conscription forcée. Je sais pas s'il y a...
Service militaire obligatoire.
Oui, c'est ça. Il y a un service militaire obligatoire en Russie.
En Russie.
Puis si c'est nécessaire, la conscription obligatoire peut être mis de l'avant. Puis je pense pas qu'il y a grand personne qui vont justement refuser cet appel-là de la part de leur président. Du moins, il démontre sa force. Il est capable d'assassiner des opposants politiques ou en tout cas des déserteurs jusqu'en Espagne.
Ou d'aller jusqu'à les mettre dans des camps de concentration.
Oui.
En Arctique.
Oui, c'est ça, exact. Et je pense sûr qu'Alexei Navalny a été empoisonné lorsqu'il était en Allemagne, si c'est bien ça.
Il a été empoisonné en Russie, mais il a été se faire soigner
pendant les élections régionales en 2020.
Et il a dû se faire soigner en Allemagne parce que
avec l'accord du Kremlin.
Oui, c'est ça. Donc, clairement que la Russie est prête à tout faire pour éliminer ses différents opposants politiques. Et je crois que c'est... Et à la fin de la journée, c'est ça, il n'y a pas assez d'hommes en Ukraine pour résister à l'infini contre la Russie. Hein.
Ils viennent de changer leur règle de mobilisation, justement, faire passer le service à... de 27 à 25 ans, en espérant qu'ils peuvent aller chercher entre 400 à 500 000 soldats. C'est une loi du Parlement qui vient de récemment passer en Ukraine.
Parce qu'à la fin de la journée, c'est de la survie.
Oui, c'est ça. C'est comme vous dites, c'est de la survie. Puis malgré le fait que l'Ukraine arrive à avoir un peu de ce soutien international, cela reste peu. Et de plus, il y a un contexte américain où c'est le grand débat en ce moment entre les démocrates et les républicains sur la question de l'interventionnisme. Les républicains, notamment... sous l'idée principale de Donald Trump, qui est de ne plus soutenir les pays en guerre. Donald Trump s'est montré en forte opposition contre le soutien militaire et financier des États-Unis sur des pays en guerre, notamment sur l'Ukraine. Et c'est toutes ces cartes-là aussi qui se rejouent à l'international. Et c'est sûr que si l'Ukraine perd ce financement-là, l'Ukraine, on le disait, qui est un tout petit pays, par rapport à la Russie, hein, qui est le plus grand pays du monde, une des plus grandes armées, qui paraît tout petit. Donc si l'Ukraine perd cette aide internationale, c'est pas des beaux jours devant elle que l'Ukraine aura. D'ailleurs, on a vu que depuis plusieurs mois, l'Ukraine arrive de moins en moins à tenir tête face à la Russie. Marc-Antoine nous parlait de cette ville où l'Ukraine a dû retirer ses troupes. On voit que c'est de plus en plus compliqué, hein, pour la situation, pour le peuple ukrainien. Donc on va voir aussi comment cela va évoluer, si le droit international et les pays internationaux vont intervenir, comment l'OTAN ou l'Europe, il y avait tout un tas de discussions diplomatiques sur cette question-là, comment tout cela va intervenir. En tout cas, on en reparlera dans cette émission, ça c'est sûr. J'en reviens un petit peu aussi sur Alexei, qui s'opposait sur le plan structurel à Poutine. Lui, Alexei, était pour une démocratie, un pluralisme politique, contrairement à Poutine qui, lui, est un autocrate. Il est le seul au pouvoir et élimine ses opposants. Alexei, lui aussi, était opposé sur le plan culturel et politique à Poutine. Il défend, comme je le disais, des idées anti-corruption, hein. Il est pour une transparence économique du pouvoir, il défend la question des LGBT, il se dit féministe, il se dit sur une ligne progressiste. Toutes ces lignes-là, culturellement et politiquement, sont en opposition fondamentale à Poutine, qui lui est réactionnaire. Politiquement et culturellement, on le voit dans de nombreux discours, être contre les féministes, contre les personnes homosexuelles, les personnes de la communauté LGBT. D'ailleurs, on n'aurait pas le temps d'en parler, de les citer aujourd'hui, mais Poutine, depuis plusieurs années, depuis qu'il est au pouvoir d'ailleurs, a développé tout un tas de lois restrictives et extrêmement réactionnaires sur le sort et concernant le sort des personnes de la communauté LGBT. Et il fait vraiment pas bon d'être LGBT aujourd'hui en Russie. Et Poutine aussi qui se bat contre aussi la question de l'autodétermination. Il ne laisse pas les peuples choisir démocratiquement leur autodétermination. Il va imposer militairement cet impact-là. Il a remis, comme on le disait, les camps de travaux forcés. C'est pas pour rien que dans sa propagande, Poutine essaye de redorer l'image du dictateur sanguinaire qui était Staline. On voit dans sa propagande, Lénine fait toute une propagande pour mentir, pour pourrir l'image que pouvait être la figure révolutionnaire de Lénine. Et au contraire, Poutine essaye de redorer l'image que pouvait avoir Staline. C'est ça qui est intéressant. On a vu pendant la propagande sur la question ukrainienne que Poutine n'arrêtait pas de redire le fait que l'Ukraine avait été libérée par Lénine, que l'Ukraine aurait été créée par Lénine. Poutine a parlé de ça plusieurs fois. Et c'est intéressant, comme si pour lui c'était un argument pour tuer des milliers de civils, ce qui n'a pas réel sens. Et ce qui est réellement intéressant, qu'on voit qui recrée cette opposition, et notamment qui se resserre de tout un pouvoir oppressif, ouais, qui rappelle des jours assez terribles de la Russie. Donc c'est aussi pour ça que Poutine se joue comme ça contre les travailleurs, contre la démocratie, contre la question de la liberté. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez quelque chose à rajouter sur cette question-là avant qu'on retourne en onde.
Non, on a fait un bon petit parallèle historico-politique.
J'ai essayé du mieux que je peux.
Donc, évidemment, là, nos auditeurs, soyez patients avec nous. Des fois, c'est difficile, justement, de résumer en si peu de mots des conflits et une histoire si complexe et qui a marqué la période contemporaine. Là,
et je trouve ça important aussi de marquer pourquoi, dans cette propagande de Poutine, il y a comment on peut appeler ça, cette espèce de... Je perds mes mots, excusez-moi. Quand on essaye de modifier, tu sais, l'histoire, finalement, c'est ce qu'il essaye de faire, cette espèce de négation, de transformation de l'histoire qu'il essaye de faire avec l'histoire de la Russie. Et quand on voit que Poutine essaye littéralement de se réapproprier presque l'image de Staline en niant presque ce qu'il a fait, et tout ça, c'est aussi, ça l'arrange, hein, parce que Poutine lui-même remet des camps, expulse ses opposants. Finalement, on peut un petit peu voir un petit peu, c'est comme comment Staline se comportait avec les trotskistes ou avec les révolutionnaires ou avec les marxistes. On se souvient de l'expulsion que faisait Staline sur les révolutionnaires. Bon, j'irais pas jusqu'à dire que c'est aussi pire là. Poutine n'a pas fait de purge, lui, mais on peut dire qu'il y a une espèce de, comme si il y avait une espèce d'inspiration presque des fois politique, et c'est assez alarmant. Mais effectivement, on en reparlera dans cette émission, comment cette situation là avance, et on va pouvoir retourner en onde pour ensuite une chronique de Jérémy sur les déboires populaires de la CAQ. Mais oui, comme tu le dis, Jérémy, merci, c'est des fois des contextes comme sur la question ukrainienne ou la question russe, c'est des contextes qui sont assez larges, qui datent depuis plusieurs années, qui sont inscrits dans des questions historiques. Donc c'est des fois un peu délicat, un peu compliqué à expliquer en quelques minutes. Mais on espère faire ça au mieux pour nos auditeurs. Merci, on se retrouve dans quelques minutes. Merci.